Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, on retrouve notre ambassadrice de la moto, Patricia, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Voilà, on va avoir durant cette émission, Patricia, Daniel David de l'Amicale des motos Gnomeron.
Oui, parce qu'il va y avoir un rassemblement des motos Gnomeron dans le Boulonnais et donc une balade qui va rayonner aussi sur l'Audomarois. Et il y aura des points d'arrêt où il sera possible de les rencontrer, de voir les machines qui constituent vraiment un pan énorme de l'histoire de la moto. Et donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment en parler pour ne pas rater l'événement.
Voilà, très bien. Ensuite, on va aussi avoir Hervé, le vice-président du Motartois.
Voilà, le Motartois. C'est vrai que c'est une superbe fête qui est donc a lieu à Béthune et depuis des années. Et donc, on avait à cœur d'inviter les responsables de Moto Liberté, Moto Club Liberté, qui organise cet événement donc d'année en année.
Très bien, voilà. Aussi, aujourd'hui, nous avons l'occasion de retrouver notre ami motard lecteur Yves Coutel. Bonjour Yves.
Bonjour.
Alors, on va parler de papier d'Arménie avec Guy Bernard Ego.
Oui, exactement. Le deuxième volet de Guy Bernard Ego. Et puis en anecdote, la rencontre avec notre ami Yanis. À son retour du périple qu'il a fait.
Très bien. Et on va avoir la chance de l'avoir au téléphone.
Et on l'aura au téléphone. Donc, 40 ans, le premier bouquin parlait d'un voyage qu'il avait fait en Iran en 1975. Et là, ça parle d'un voyage qu'il a fait en Arménie en 2015. Et toujours en duo. Et toujours avec une BMW, mais pas la même. Donc, on pourra un peu avoir ses impressions et comment ça fait quand on vieillit et qu'on roule en moto comme ça.
Écoute, on est impatient de l'écouter. Voilà, très bien. Voilà. Vous écoutez quoi ? Qui écoute tout patch hein, sur Campus Lille à la technique et programmation musicale. On salue notre pilote d'émission Laurent et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. À tout de suite.
Not a soul around.
Magazine de la moto, c'est tous les dimanches sur Campus à partir de 11h. Voilà, au téléphone, nous avons Daniel David de l'Amicale des motos Gnomeron. Patricia.
Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour Daniel. Merci d'être à l'antenne, justement pour nous parler de cette marque mythique, hein, au même titre que d'autres marques d'une certaine époque, parce que c'est vraiment inhérent à l'histoire mécanique, on va dire, de la première partie du XXe siècle.
Ouais, tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, si pour parler de Gnomeron, bon, vous savez qu'en marque, en marque française, il y a eu peut-être 1500 marques de motos. Après, il y en avait quelques-unes qui étaient un peu plus renommées, comme Peugeot, Moto Bécane, Terro. Celles-là, tout le monde les connaît. Gnomeron, c'est un petit peu moins connu. C'était connu un peu plus de nos anciens parce qu'ils avaient connu ça dans les années 50. Mais les personnes plus jeunes connaissent pas trop cette marque. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était quand même une marque qui était issue de l'aviation, qui faisait des motos d'une qualité technique assez supérieure et qui faisait des motos assez prestigieuses. Donc, effectivement, ce n'était pas toujours la moto populaire.
C'est-à-dire qu'au niveau mécanique, il y a vraiment eu des innovations très importantes.
Alors, peut-être pas des innovations, mais au moins la qualité de construction.
D'accord. Parce que moi, je voudrais dire que justement, si les gens sont motivés pour se renseigner sur les motos Gnomeron, qu'ils n'hésitent pas à aller sur le site de l'Amicale des motos, parce que ce site est très très bien fait, il est très riche, et donc en lisant surtout les gazettes, hein, il y en a un certain nombre, donc moi j'ai juste pioché un petit peu, hein, à chaque fois, oui, j'étais très impressionnée parce que, oui, je disais innovation dans le sens où chaque fois qu'il y avait un but à rechercher, il y avait quand même une avancée sur les, que ce soit sur les moteurs ou tout ce qui pouvait se faire. Donc, cette amicale des motos Gnomeron, justement, qui visiblement est animée par cette envie aussi, hein, de partager l'histoire et aussi l'actualité de ces motos, puisque il y en demeure quand même beaucoup de très belles machines. Comment elle s'est constituée, cette amicale?
Très simplement, c'est-à-dire c'est quelques personnes qui étaient intéressées par la marque qui forcément se sont rapprochées et puis de là est née l'idée de fonder une amicale et on a commencé à se rassembler, à parler un petit peu autour de nous et on a démarré en 86. Alors on a eu à un moment beaucoup de membres, mais on fabriquait beaucoup de pièces de rechange pour nos motos. Après, c'est devenu un peu compliqué à gérer, donc on a perdu quand même pas mal de membres. Mais aujourd'hui, les membres qui restent, c'est des membres très actifs au sein du club. On est 110 membres actuellement. Les gens participent au rassemblement, font rouler leurs machines. Enfin bref, il y a une très bonne convivialité.
Donc, l'amicale, elle, est plus ancrée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors, pas du tout.
Pas du tout.
Déjà Gnomeron ne vient pas du Rhône, enfin, ou indirectement. Hein. Les usines Gnomeron où étaient fabriquées les motos, c'était à Gennevilliers, en région parisienne. Et le siège du club aujourd'hui est à Évry, là où on a les usines Snecma Moteur, le groupe Safran, qui est la continuité de ce qu'était la marque Gnomeron.
D'accord. Mais donc, les membres, par contre, c'est sur toute la France?
Oui, alors à France, on a aussi des membres espagnols, allemands, hollandais, et au rassemblement d'ailleurs, on a beaucoup d'Hollandais qui viennent, d'Allemands, surtout que cette année, on est un peu plus proche de chez eux que les autres rassemblements, donc ça les arrange quand même pas mal.
Donc depuis des années, il y a ce rassemblement annuel. Et donc il y a une carte qui reprend tous les points de chute hein, qu'il a pu avoir, chute oui. entre guillemets. Et donc là par contre effectivement ça va s'enrichir avec le rassemblement qui aura lieu du 14 au 17 mai dans le Pas-de-Calais. Hein, c'est vrai que nous on est directement concernés donc et ce rassemblement donc il réunit à peu près combien de membres de l'amicale.
Alors on a 77 inscrits à ce jour.
C'est important.
Oui, c'est toujours un rassemblement assez important. On a choisi la Côte d'Opale parce que mon épouse est originaire de ce coin dans votre région et elle aimait beaucoup ce coin, quoi. Disons qu'on va souvent se balader, on va souvent sur Vimereux, sur ces régions qui sont magnifiques. Et on a voulu faire découvrir un petit peu le Nord à tous les membres parce que personne ne connaît vraiment. Et il y a eu un enjouement quand même. Les gens étaient assez enchantés de venir.
On en est très heureux parce qu'effectivement, c'est une très belle région qui a les points. On parlera plus hein, de ce rassemblement dans un deuxième temps. Mais justement, les motos. Il va y avoir un panel de motos qui couvre à peu près combien d'années, je dirais, de l'histoire de Gnoméron.
Eh bien, les plus vieilles seront aux environs de 1925 et les plus récentes dans les années 50, sachant que la marque a commencé à fabriquer des motos en 1919 et a terminé en 1962. Donc voilà un petit peu l'étendue. Et on a des motos un petit peu toutes les époques qui seront présentes au rassemblement.
J'ai une question, Daniel. Au début, Gnome et Rhône, c'est deux sociétés. Hein. Il y a eu une fusion.
Oui. Oui, alors il y a eu Gnome et il y a eu le Rhône. Alors Gnome, c'était les frères Seguin, donc qui sont de la même famille que les Montgolfier et les Canson, oui. Donc originaires d'Annonay dans l'Ardèche. Oui. Et ils ont commencé à fabriquer des moteurs d'avions rotatifs, c'est-à-dire que les cylindres tournaient avec l'hélice. Hein. Oui. Il y a une autre marque qui s'est créée, c'est le Rhône, créé par Louis Verdet, qui avait donné le nom de le Rhône parce qu'il était originaire de Solces-sur-Rhône, une petite commune qui était au sud de Valence. Et ils se sont associés en 1914 parce qu'ils avaient des intérêts communs.
C'est devenu Gnoméron.
Et c'est devenu Gnoméron. Donc Gnoméron, ça a été le motoriste le plus important au niveau des avions, notamment à la guerre de 14. Pratiquement tous les avions volaient avec des moteurs Gnoméron.
Et après ils vont se tourner vers la production de motocyclettes parce que après la guerre forcément il y a moins de boulot.
Alors justement, ils se sont trouvés à la fin de la guerre avec un tissu industriel énorme et plus de commandes puisqu'il n'y avait plus de guerre. donc ils ont essayé plusieurs débouchés et ils ont racheté la licence de moto ABC qui était fabriquée en Angleterre. Oui, et c'était un projet qui n'était même pas terminé, donc ils ont remis la moto sur les planches de dessin, ils l'ont passé au pas métrique, ils l'ont nettement amélioré, et ça a été la première Gnoméron, et c'est celle qui a sauvé la marque en plus.
Oui, très bien.
Voilà. Ensuite, il y a eu toute une évolution de moto et tout, et dans les années 50, quand on est arrivé vers les années 50, le problème c'est que c'est un avioniste qui était un peu en retard sur la réaction déjà, donc il fallait faire des réacteurs pour les avions, et donc ils ont un petit peu laissé tomber la moto, et jusqu'en 62, où déjà le marché moto s'est écroulé en France, là ils ont carrément fermé cette branche.
Et donc, cette activité industrielle, il y avait aussi, beaucoup d'épreuves sportives pour présenter ces machines.
Oui.
Sur le site, c'est pour ça que j'insiste sur pour moi la nécessité d'aller sur ce site parce qu'on apprend énormément. Il y a beaucoup d'articles aussi sur les pilotes, sur les personnes qui se sont profondément investies, et puis aussi le contexte et les forces qui pouvaient être très déséquilibrées quand les deux noms ont été associés, hein, Motognomeron, mais pour c'était ça n'avait pas le même poids finalement. Il y avait le pouvoir décisionnaire, c'était quand même penché plus d'un côté.
Oui, donc je vais reprendre un petit peu. Donc il y avait deux pilotes principaux sur la marque qui étaient donc Gustave Bernard et Henri Nasse. Alors sachez, puisqu'on est sur votre région là-haut, que les deux sont issus de votre région. Gustave Bernard était originaire de Biache-Saint-Vaast et Henri Nasse, sa famille était de Vimereux, exactement de Vimille. Voilà. Donc ensuite, effectivement, il y a eu des épreuves sportives. Il fallait vendre les motos, donc il fallait, comme aujourd'hui, il faut démontrer qu'on a la meilleure machine pour pouvoir les vendre. C'est un acte commercial. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément d'épreuves. Il y en a eu beaucoup dans votre région, d'ailleurs. Hein. On va parler peut-être tout à l'heure du livre de Guy Lemaire qui parle d'Henri Nasse, qui est le pilote le plus titré. Le pilote français le plus titré d'avant-guerre, qui est originaire de votre région, hein, mais il parle aussi des courses de côte, du cran d'escale, ça s'appelle le camp du drap d'or dans votre région aussi.
Oui,
il parle un petit peu de toutes ces choses-là, et vraiment, vous aviez une région qui était quand même assez riche en compétition moto à l'époque.
On poursuit après la pause musicale.
Ok,
merci,
pas de problème.
Daniel, à tout de suite.
À tout de suite.
I'm
Voilà, Patricia, retour avec Daniel David de l'amicale des motos Gnomerone.
Oui, Daniel, à nous.
Oui,
voilà.
On a eu des petits soucis téléphone, on ne sait pas pourquoi.
Oui, on s'est perdu un moment.
Mais on s'est retrouvé, voilà. C'est le principal.
Oui, on va pouvoir parler justement de ce rassemblement annuel qui va avoir lieu du 14 au 17 mai, donc dans le Pas-de-Calais.
Oui, donc je vous ai dit pourquoi on avait choisi le Pas-de-Calais tout à l'heure. Bon, déjà parce que c'est une région qui me plaît beaucoup, hein, ainsi qu'à mon épouse. Et puis, on voulait faire découvrir aux gens de l'Amicale votre région qui est magnifique. Et donc, on a rendez-vous à partir du 14 mai, donc les gens arrivent d'un peu partout. Le 14 au soir, on fait l'assemblée générale du club, puisque tout le monde est là et que c'est le meilleur moment.
Donc, on peut préciser que c'est au camping.
Ah oui. Oui, c'est le camping Pommier des Trois Pays à Licq. Donc, c'est le lieu qu'on a trouvé. C'est un lieu qu'on a trouvé qui nous convenait. Avec mon épouse, on avait été visiter le camping, prendre contact avec les gérants. Et puis, on a préparé ça il y a plus d'un an parce que trouver de la place pour 77 personnes, c'est pas toujours aisé.
Ouais.
Voilà.
Et donc, voilà. Après, donc il y a l'AG du club le soir même au camping.
Voilà. Donc là, j'ai du club le soir même au camping. Ensuite, on prend tous nos repas pendant les trois jours le soir au restaurant Le Taco, qui est sur Licq. Et puis, à partir du vendredi matin, donc on démarre à 8h30. On se dirige sur Vimereux, où là, on a un arrêt qui est Quai d'Asbrook. Donc, c'est au bout de Vimereux, vers là où il y a la rivière, là. Et là, la route est fermée pour nous, donc on sera à l'aise pour montrer les motos, pour discuter un petit peu. Donc c'est déjà un des premiers hommages à Henri Nasse qui a vécu dans cette ville. Hein.
Et là, ça sera donc entre 9h30 et 10h30 environ. Hein,
À peu près, voilà. Ouais. Alors c'est toujours à peu près. On a quelques pannes de temps en temps avec nos engins. Donc...
Ah bon?
Ouais, ça peut arriver. Voilà. Donc ensuite, on prend la route pour le Cap Griné. Donc pareil, Cap Griné, c'est assez symbolique parce que vous avez le camp d'escale. Et là, il y avait Smith Seymour qui avait remporté donc une course avec une Gnomeron à l'époque. C'était le meilleur temps chrono. Et vous avez une stèle qui est à l'entrée du parking en haut qui rappelle cet événement. Ensuite, on part direction le village, enfin Saint-Joseph Village. Où on va réaliser une visite et le repas en même temps.
Oui, et donc, moi, je le disais, Saint-Joseph Village, j'en avais entendu parler. Oui. Et de ce fait, ça a permis de me remettre en mémoire qu'effectivement, je n'y suis jamais allée, mais c'est un village particulier.
Ah, ça vaut vraiment le coup, hein.
Oui. Mmh. Oui, oui. Si tu peux résumer un petit peu
Alors, je peux résumer un peu. Ce village est constitué de plusieurs, on va dire boutiques, parce qu'en réalité, c'est plusieurs petits box. Et chacun représente un commerce d'époque avec le matériel, comme si on était dans un magasin dans les années 30 ou dans les années 50. Et c'est vraiment très intéressant à visiter. Moi, je le conseille fortement à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller le visiter. C'est chouette et disons que ça correspond bien un petit peu à l'esprit aussi de nos rencontres. Voilà.
Donc, après cette pause à Guine...
Oui, donc après cette pause à Guine, alors on fait un petit crochet quand même, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai perdu le nom, je m'en excuse, mais c'est l'endroit où la première montgolfière s'est posée en traversant la Manche et qui est juste à côté de Guine, donc c'est dans les bois. Donc on va visiter ce lieu et puis après on rentre au camping où là on va faire une exposition des motos. Et puis tous les gens qui veulent venir voir l'expo pourront découvrir nos motos. Donc c'est le meilleur moment pour les voir parce que le reste du temps on est à droite à gauche, on n'est pas forcément camping, donc c'est le meilleur moment pour les voir.
Et est-ce que c'est un petit lien aussi avec l'historique justement de Gnomerone, parce que les premières familles étaient parentes avec justement les montgolfiers, c'est ça?
Alors, non, mais c'est un petit clin d'œil, quoi, disons.
C'est un
voilà.
petit clin d'œil. Hein.
C'est un petit clin d'œil, et puis c'est un petit lieu historique qui est assez proche de là où on passe, donc on a décidé de faire le crochet pour aller le voir. Voilà, c'est un peu ça.
Oh ben moi, je l'ai appris toujours sur le site.
Hein. Ah ouais, d'accord, ok, ben oui. D'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, quand vous regardez une feuille de papier Canson, voilà, vous avez une montgolfière qui est dessinée.
Oui, mais c'est, moi je...
Et c'est parce que c'était les mêmes familles, les montgolfiers, les Canson et les Seguin.
Oui, voilà, c'est ce que j'ai appris au travers, à travers ma lecture.
Voilà, très bien, vous l'avez bien lu.
Donc après, c'est retour à Lick, exposition donc des motos au camping.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, exposition des motos camping. Donc là, j'invite tous les gens qui veulent venir les voir à venir à cet endroit-là. Ça sera certainement le mieux placé pour venir les observer. Et puis discuter avec les gens les gens amateurs et qui sauront vous donner les bons renseignements. Et puis voilà.
Voilà, c'est entrée libre.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est une entrée libre. On l'annonce même dans la vie de la moto, donc il y aura certainement du monde qui va venir voir, mais c'est avec plaisir. Voilà.
Et l'avantage, c'est qu'on peut discuter avec les pilotes.
Exactement, hein, exactement.
C'est leur demander si c'est des bonnes machines ou alors éventuellement peut-être que quelquefois il y a des petits problèmes.
Oh, bah, les petits problèmes, il y en a tout le temps.
Hein. Tout le temps.
Bon, c'est jamais très grave, mais voilà, malheureusement, il y en a tout le temps. Voilà. C'est des centenaires, il ne faut pas l'oublier, pour certaines, du moins.
Tu parles des motos ou des pilotes?
Non, je parle des motos, mais on pourra juste une petite parenthèse quand même là-dessus. Oui. C'est que malheureusement, nos associations, on n'arrive pas à recruter les jeunes.
Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que Noméron.
Eh bien oui, donc là à partir de cette année, on met la gratuité pour les pilotes de moins de 30 ans, mais même là,
et après,
même
ça
là
sera,
on va pas se ruiner. Hein.
Ça sera une prime qui leur sera versée.
Oui, presque, oui.
Dis-moi, à l'époque, quelles étaient les marques concurrentes de Gnomeron?
Alors Gnomeron était surtout sur l'endurance et pas tellement sur les courses de vitesse.
Sur le marché. Si on voulait acheter une moto. À l'époque, on avait le choix, il y avait beaucoup de marques françaises.
Ah oui, mais au moins 1500 marques, minimum. Donc, vous
1500
en avez
marques, c'est beaucoup quand même.
Minimum. Non, minimum. Il y a un livre qui existe sur les 800 marques de la région parisienne, de la région parisienne. Donc non, 1500 marques, je pense qu'il n'y a rien d'exagéré. Ouais. Même si je suis un peu du sud.
Il y avait Cochlear Escoffier, il y avait Terreau, il y avait Peugeot, il y avait.
Oui, alors ça c'est les marques les plus connues, mais on a parlé tout à l'heure effectivement Cochlear Escoffier, Monet Goyon,
oui.
On peut en citer des quantités, Newmap, Dollar, Newmap, vous voyez, il y avait des quantités de marques.
Et tout ça des marques françaises, hein.
Oui. Alors Gnomeron, je vous disais tout à l'heure, était un peu plus sur l'endurance. Faut savoir qu'ils faisaient des records de distance et ils ont battu un record de distance en juillet 1939, 50 000 km en 19 jours, ça fait 105 de moyenne, et que ce record des 50 000 km est toujours détenu par Gnomeron.
D'accord, très bien. Dis-moi aussi cette super majeure, mais aussi et surtout la 500 V2. Tu peux nous en dire, nous en parler un peu?
Oui, la 500 V2, donc c'est une moto qui est sortie en 1931, donc un bicylindre à plat, comme BMW, mais en moteur latéral. Cadre en tôle embouti. Alors les cadres en tôle embouti, c'est quelque chose qui est compliqué pour une marque qui n'a pas de matériel industriel, mais Gnomeron était très équipé en gros matériel industriel, donc il pouvait faire des cadres comme ça. Et un cadre fabriqué de cette manière est beaucoup plus facile à aligner, et donc du coup vous faites deux coques que vous soudez au milieu. Et votre cadre il est fait. Et puis paradoxalement, il est plus léger qu'un cadre en tube. Voilà, et plus rigide.
Et puis,
donc, beaucoup d'intérêt.
Et puis pour les besoins militaires aussi, Gnomeron va concevoir le sidecar AX2.
Alors tout à fait, donc c'est un sidecar à deux roues motrices. Et il a été énormément répandu. Donc c'était la moto de l'armée française pendant la dernière guerre.
Nous, on parle souvent des Ural et tu vois les sidecars. Hein, quand on va aux éléphants, on peut les voir. Donc on les connaît très bien. Mais par contre là, le sidecar de Gnomeron, j'en ai jamais vu. Hein.
Alors je vous invite à venir. Voilà. Je vous invite à venir.
Donc, on va bien voir.
Parce qu'il y en a plusieurs. Il y aura plusieurs AX2. Donc vous pourrez les voir sans problème.
Et donc là, le samedi 16, ça sera dans l'Audomarois.
Alors oui, tout à fait. Donc le samedi 16, on va visiter les brigades de la Halle le matin. Ce qui est un petit musée de votre région là, qui est très sympathique. Alors personnellement, je ne le connais pas encore, mais on me l'a tellement conseillé qu'on a pris contact avec eux pour faire une visite. Et puis on file sur Salpervic, et là donc on mange dans un restaurant qui s'appelle le je me rappelle plus. Mais on fait un petit tour en barque après dans les, sur les marais d'Audomarois. Et puis on rentre après sur l'équipe. Ah bah,
je vois que les possesseurs de Gnomeiron aiment bien vivre.
Ah, tout à fait, mais comme les motards en général. Ouais. Les motards en général.
Ils prennent du bon temps alors.
Les motards en général, oui. Je dirais. Voilà.
Donc le dimanche, ce sera pour rendre hommage à Henri Nas, ce déplacement vers Carrie.
Voilà, donc Henri Nas repose au cimetière de Carrie. Et donc on souhaite lui rendre hommage. Donc on avait déjà on a mis très longtemps pour retrouver l'endroit où il était enterré. On savait qu'il était dans la région, mais on savait pas exactement où. Et donc il a fini ses jours sur la ville de sa mère et de Carrie. Donc on fait un rassemblement à la mairie de Carrie, qui est à côté du cimetière, et on fera on déposera un bouquet et un hommage à Henri Nas, et on finit par un repas qu'on va prendre à sa mère au Trois Tonneaux, je crois que ça s'appelle, et c'est la dernière demeure d'Henri Nas en plus. Très bien, donc voilà. Là, Henri Lemaire sera présent, donc oui. Vous connaissez certainement, qui est un auteur qui a fait plusieurs ouvrages sur votre région et qui a écrit un livre magnifique que je conseille à tout le monde. En plus, il est un prix qui est très abordable de 25 euros et je vous le conseille vraiment.
Très bien. Et tu sais que vous êtes deux là au téléphone, hein?
Ah bon?
Oui, bah, y a un petit moineau derrière là qu'on entend. Là.
Ah non, mais je suis en pleine nature là.
T'es en pleine nature, bah oui, non, on s'en est rendu compte.
Je suis à la limite entre le Jura et l'Ain là, parce qu'on fait une sortie moto avec mon club.
D'accord.
Et voilà, donc là, je suis en pleine nature. Non, en moto moderne là.
Ah bah, moto moderne.
Je roule en BMW là.
Ah voilà. Oui, en BMW, bien sûr. Ouais.
Voilà.
Bon, très bien.
Voilà.
Ben alors, on va reprendre tout ça oui. Sur notre page Facebook pour que les personnes aient bien sous les yeux les différents endroits où ils pourront admirer ces magnifiques motos.
C'est du 14 au 17 mai, hein, voilà.
C'est ça, et puis ben, on vous attend si vous voulez venir, ça serait volontiers.
Voilà, ouais. Très bien.
Avec plaisir, voilà. Daniel.
Voilà. Et ben, merci beaucoup,
merci
et puis
à
au revoir
toi.
À tout le monde. Ouais. Alors.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. We'll be right back.
Au téléphone, Patricia, nous avons Hervé, c'est le vice-président du motoclub Liberté qui organise les 16 et 17 mai le Motartois.
Oui, bonjour Hervé.
C'est balèze le Motartois, j'ai vu le programme.
Oui, bonjour.
Il va y avoir des choses à faire. Hein.
Ah oui, oui, un super programme comme d'habitude, hein, Hervé. Pour cette année encore, pour la 16e édition, ça va vraiment être la fête pour les motards qui viennent très très nombreux au Motartois en général.
Tout à fait, oui. C'est la 16e édition sur Béthune Motartois, appellation Motartois, 28e bénédiction des motards à Gonem.
Oui.
Hein, donc c'est le 15, 16 et 17 mai prochain. Donc on attend le dimanche matin pour la balade, il y a quelques 2000 motos, on va dire, et puis l'après-midi pour la bénédiction, on est à 3 500-4 000, quoi.
La bénédiction, ça marche?
Ah oui, la bénédiction se déroule à Gonem, donc on fait une balade Béthune-Gonem, oui, pour la bénédiction. Et puis
non,
voilà,
c'est pas ça que je voulais dire, Hervé, est-ce que quand on est béni, on est sûr d'être en sécurité, de rouler en sécurité quand on vient au Motartois?
Oui, après bon, tout est relatif,
mais rien ne peut nous arriver.
Est-ce qu'il y a des retours?
Est-ce qu'il y a des retours là-dessus? Oui. Est-ce que tous les... Voilà. non, tu peux rien dire.
Bah non, après reprend la moto et puis voilà quoi. Donc après c'est la sécurité de chacun sur la route, chacun.
Bon, d'accord, est responsable de ce qu'il fait, quoi. On a bien compris. Voilà. D'accord.
La miche est taquin. Mais on va revenir à ce super programme effectivement qui commence le vendredi 15 mai dès midi avec l'ouverture
dès
des stands.
Avec l'ouverture des stands, ouais, voilà. Donc on a une trentaine d'exposants là qui de tout bord, hein. Il y a des gens qui viennent on a des gens de Halles qui viennent, donc c'est quand même quelque chose d'important. Ah oui. Donc on ouvre les stands le vendredi à 12h et puis voilà jusqu'à 20h30
après pour le lendemain ça démarre très tôt
le samedi 16 on démarre sur le coup de 9h du matin avec une inscription pour le rallye touristique
et ce rallye touristique il emmène les personnes sur à peu près combien de kilomètres?
C'est un rallye touristique qui fait une bonne cinquantaine de kilomètres, quoi.
D'accord.
Donc c'est un roadbook que les gens doivent suivre pour recueillir des réponses à certaines questions. Et après, bon, on fait la correction et on met des points par rapport aux réponses. Quoi.
Moi, j'avais une petite question parce que j'ai vu que c'était très orienté l'après-midi sur les filles.
Oui.
Et je voulais savoir s'il y avait une signification particulière, une raison particulière.
Ah oui. Oui, élection Miss Motartois.
Oui, oui, mais pas que.
Tout à fait,
pas
oui.
Que, il y a aussi une balade... filles.
Spéciale fille.
Tout à fait, ouais. Donc le matin, on va revenir un petit peu le matin. Donc il y a une balade rétro avec les motos d'avant 1985.
D'accord.
Avec une élection des trois plus belles motos. Sur le retour. Alors, ensuite, 14h30, on a la balade Ladies dont vous parlez. Donc c'est une balade qui est réservée aux filles. Parce qu'il y a des filles qui n'osent pas trop rouler le dimanche matin parce qu'il y a trop de monde. Donc voilà, et de ce fait, on fait une élection de Miss Motartois.
Ils ne veulent pas rouler avec les hommes?
Parce qu'il y a du monde, donc c'est vrai que c'est pas
ça
évident.
Ça doit être impressionnant quand même, oui.
Voilà, c'est impressionnant,
moto,
c'est vrai qu'il y a du monde.
Et s'il y a beaucoup de filles, il va y avoir du monde.
Ils sont généralement il y a 100-150 motos, quoi. C'est beaucoup plus.
Ah oui, c'est beaucoup, 150 motos quand même.
Non, mais le nombre des filles,
oui,
quand même,
augmente. Pour nous, c'est petit, quoi.
Ah oui, pour vous, c'est petit. Bah oui, d'accord.
Voilà.
Ah bah oui.
Et donc, après, sur le coup de 17h, on a les remises au niveau de la scène, les remises de prix, parce qu'il y a un prix à chacun. Hein. Donc, que ce soit les rétro, que ce soit le rallye touristique ou le Miss Motartois, ils ont tous un prix, les trois premiers, quoi. Il y a aussi deux permis moto à gagner. Donc, un permis offert par l'auto-école Hermant le samedi soir et un permis également offert par l'auto-école Hermant le dimanche soir.
Et la journée se termine bien avec un concert.
Et le samedi soir, c'est un concert à tribute Pink Floyd.
Ouais. Ça s'appelle Pink Floyd.
C'est Pink Floyd, tout à fait.
C'est le tribut de Pink Floyd.
Le tribut de Pink Floyd, c'est les Britanniques.
Oui.
Donc voilà.
Ça va planer, hein?
Ça aussi, ouais. Et entre-temps, on a des show motos, enfin, c'est du trial. Donc c'est deux motor show qui sont de la région de Toulon qui viennent nous faire ça en moto électrique.
D'accord.
Donc deux shows, un à 15h le samedi et un à 17h30.
Ah, c'est intéressant à découvrir, oui.
Oui, bah c'est intéressant. Bon, c'est des gens qui font quand même le championnat du monde, le championnat d'Europe. Ils font, c'est quand même des gens qui sont
pointus, on va dire.
Pointus, tout à fait, oui.
Il y a aussi un camping gratuit.
Tout est gratuit chez nous.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui est génial.
Tout est gratuit.
C'est que tout est gratuit.
Tout est gratuit chez nous.
Tout est accessible.
Donc, tout est accessible, tout est gratuit. Voilà.
Sauf que les sanitaires ne sont pas ouverts, mais sinon le camping est gratuit.
Non, je pose la question. Les sanitaires sont ouverts, mais il y a un sanitaire.
Il faut payer.
Aussi. Mais ça, c'est pas nous. C'est pas nous qu'ils ont.
Non, c'est pas vous. D'accord.
Voilà.
Et le dimanche, ça continue.
Donc, et le dimanche, on reprend à 10h avec la grande balade artésienne. Donc ça, c'est la grande balade du matin qui fait 60 km. Là-dessus, on va faire deux ou trois convois.
Parce que vous êtes combien ?
700 motos.
Par rapport aux autres années, vous avez à peu près un chiffre.
On ne peut pas savoir.
700 motos ?
On ne peut pas savoir, là, a priori.
Non, mais c'est la 16e édition, donc vous avez un petit retour quand même.
Oui, bah, on fait deux convois normalement. Deux convois, ça nous fait 1500 motos.
1500 motos. Allez, vous avez un sacré service d'ordre là, parce que
sur les parcours, on a un groupe de motos, les safety riders qui nous encadrent les convois, quoi.
Les intersections, enfin tout, parce
voilà,
que
et des
c'est
gens,
vrai que sinon on perd
des gens au niveau des carrefours, quoi.
Oui. Sinon, on perd des gens. Avec autant de monde, c'est clair.
Mais on est obligé de sécuriser un maximum, de toute façon.
Ah oui, et c'est une balade de combien de kilomètres ?
60 kilomètres, la balade du matin.
60 kilomètres, d'accord. Voilà. Oui.
Mais quelle organisation, Hervé, le motoclub est complètement mobilisé. Vous faites appel aussi à du bénévolat parce que pour encadrer tout ça.
Ouais. Voilà, les gens qui sont en poste fixe, c'est que du bénévolat. Donc c'est des gens qu'on essaye de recueillir sur l'année, quoi. Donc pour cette édition, on est dessus depuis septembre.
De toute façon, tu l'as dit, tout est gratuit. Donc forcément, les gens qui bossent sont pas payés.
Non, c'est pas payé.
les gens qui sont au carrefour et tout, ils sont récompensés quand même. On les récompense.
Ils ont un sandwich.
Ils ont un repas. Ils viennent sur la place de Béthune. Ils ont un repas d'offert.
Et un jeton de douche chaude.
Voilà. Donc, si oui.
Il paraît qu'ils peuvent communier aussi, pas seulement être bénis.
Mais oui. Ce qui est impressionnant, c'est que justement, ça puisse être toujours une telle réussite chaque année, alors que.
Pas de problème.
C'est pas grave.
Non, c'est parce qu'on est en réunion de coordination de sécurité là, donc.
Mais il faut.
C'est important.
Il faut pouvoir citer aussi toutes les que ça peut se faire aussi grâce au soutien de la ville de Béthune.
Ah oui, tout à fait.
Toutes les personnes qui s'impliquent.
Voilà, on remercie toutes les communes qui nous autorisent les passages parce qu'on demande le droit de passage sur toutes les communes et tout. Donc, après, il y a un arrêté préfectoral qui est là.
J'allais y venir, ça doit faire un rude boulot pour faire les demandes à la préfecture.
Administratif, c'est un gros travail. Donc, c'est un peu mon rayon, ça. Voilà.
Et courageux, Hervé.
Et donc, on va terminer pour le dimanche après-midi. Donc, le dimanche midi, on a un groupe local, qui vient jouer un petit peu. C'est Delete Fuite.
Ah merde.
Pourquoi merde ?
Oh merde, parce que Delete Fuite, ça fait pas motard, tu vois. C'est juste sur le nom, je les connais pas.
Il est béni, le
mec. J'ai le programme sous les yeux, je le vois pas, Hervé.
Vous avez sûrement les premières affiches qui sont sorties. Ça a été rajouté. Donc, voilà. Donc, à 12h, de 12h à 14h, Delete Fuite, donc c'est un groupe local avec chansons françaises. Du rock un peu français et puis voilà quoi.
À découvrir, tout à fait.
Et à 16h30 on a le concert de Tribute Oasis Ouais.
Moi, je dis ça.
C'est ouais, j'ai ça. Ouais, tout à fait, oui.
Mais c'est vrai qu'il faut aller voir, il faut aller écouter, parce que les groupes tributes, moi, je trouve que c'est quand même de plus en plus impressionnant.
Et alors, bon, on rappelle...
Ah, si, oui. Bon, ils essayent de faire un maximum, quoi. Ouais. Donc, voilà.
Alors, il y a plein de stands, il y a du tatou.
Il y a plein de stands, on a une trentaine de stands, des concessions moto.
Des shows moto aussi.
Des shows moto, les tatoueurs, enfin tout le monde est là.
Alors, Miss Motartois, c'est comment ça marche? C'est un peu sur lequel format
Miss Motartois, c'est les filles qui font la balade samedi après-midi à 14h30. Et après, bon, ils rentrent sur Béthune et il y a un jury qui est constitué. Et voilà, c'est le jury qui détermine les.
C'est quel critère alors pour Miss Artois?
Je vois bien mon collègue. Moteur surtout.
Ah,
voilà, les filles qui sont en équipement moteur, en sécurité, non. Et puis voilà.
Voilà.
Ah oui, à chaque
fois. Vous misez string ou petite culotte, on n'en veut pas quoi.
Ah ouais, vous misez tout sur la sécurité en fait.
Bon, okay. Voilà, la sécurité c'est primordial.
C'est primordial.
D'accord. Voilà. C'est pas le club de bikers quoi.
En fait, les trois, celles qui sont reconnues, les trois. Bon. Les trois meilleurs, on va dire. Donc, ils ont un bon d'achat de 100, 60 et 40 euros.
Ah oui, quand même. Ah oui,
on va dire que tout ce week-end est sous le signe de la bienveillance, de la fête.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Voilà,
la sécurité.
On rappelle, c'est 16 et 17 mai, hein. C'est à Béthune.
Voilà, 16 et 17 mai sur la Grande Place de Béthune.
C'est la 28e édition.
Donc, 28e édition de la bénédiction des motards à Gonnevem, l'origine de la bénédiction des motards, c'était à Gonnevem.
Et c'est la 16e
édition.
Gonnevem,
c'est un petit village qui se situe à une quinzaine de kilomètres de Béthune. Et on a eu le droit d'organiser parce qu'il y avait trop de monde. Gonnevem est un village rue, et donc les secours ne pouvaient pas accéder comme ils voulaient.
Oui.
Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé en 2010-2011 sur Béthune qui nous a accueillis.
D'accord.
C'est pour ça que c'est la 16e édition du Motartois.
Si on veut plus d'informations, il y a un site internet.
Voilà, il y a un site internet, donc c'est wmc-liberté.com. Voilà. Donc aussi, il y a le téléphone du président, si je peux communiquer.
Vas-y, Hervé, vas-y.
06 26 03 49 44.
Eh bien, c'est super. Et surtout, bloquez votre week-end du 15 au 17 mai.
Voilà, tout à fait. Venez à Béthune, venez voir un peu.
C'est tout à fait
On va te laisser travailler, Hervé.
Oui.
J'entends qu'il y a...
Bonne réunion.
Il y a du boulot encore, là. Il y a encore du boulot.
Bon courage.
Oui. C'est une réunion de coordination de sécurité, donc de sécurité qu'on voit. Donc, voilà, c'est important.
Allez, 15 jours encore. 15 jours à préparer. Et puis,
encore 3
semaines.
Et après, ça sera l'effet.
Donc, encore une ou deux reconnaissances des circuits pour que tout le monde ait bien le circuit dans la tête. Et puis, voilà.
Voilà.
Génial.
Super.
Faire un maximum de sécurité. Sécurité, surtout.
Merci pour tout, Hervé. Merci pour cette application pour préparer une aussi belle fête.
Donc, le Motoclub Liberté vous remercie aussi de cet accueil.
À une prochaine fois, Hervé. Au revoir.
À une prochaine fois. À bientôt.
Merci encore.
Salut.
Au revoir.
fall. Does it make you happy when I break down? We start a revolution and we stop again, again, again. But I wanna be a fake, I wanna be a liar, I wanna be the one to lay you down. I cover up my face, I try to get inspired, but every
Yves, nous avons alors Guy Bernard-Hugo au téléphone. Yves, du motard lecteur.
Exactement. Bon, bah, Guy Bernard, c'est, on se connaît déjà. Et puis, tu connais Kikinkou, toi, un petit peu. Enfin, du moins, certaines personnes.
Bien sûr.
Donc, il mentionne dans son bouquin, en fin de compte, Guy Bernard-Hugo, je crois que c'était avec Luc qu'on a fait le premier enregistrement. Guy Bernard-Hugo, tu es parti en Iran, en 1975, en ayant gagné une BMW, je rappelle, par concours. C'était les pneus Continental, il me semble, c'est ça ?
C'est bien ça, oui, c'est bien ça.
Et puis, tu as dû préparer ta moto, la BMW, et tu voulais aller normalement jusqu'à Katmandou.
C'est bien ça, c'est bien ça.
Et tu t'es arrêté en Iran. Enfin, vous étiez à deux avec un collègue. Moto accidentée. Et en Iran, tu apprends que tu devais repasser des examens. Tu étais étudiant en pharmacie et donc il a fallu rentrer. Et donc tu as fait quand même le tour d'Iran à ce moment-là.
Voilà.
Et puis là, et puis on s'est rencontrés et tu m'avais raconté que pendant le Covid, tu avais commencé à écrire sur tes voyages. Et notamment en ayant toutes les notes du voyage en Iran, parce que tu avais fait des conférences derrière, et tu avais vraiment du matériel. Et là, tu as publié un deuxième bouquin qui s'appelle « Papier d'Arménie », qu'on peut trouver, oui. Je dis tout de suite tous les références, hein, on peut le trouver, donc c'est « Papier d'Arménie », c'est un jeu de mots avec le papier et les papiers, tout le monde aura compris. c'est édité au Lys Bleu. C'est un bouquin de 214 pages, 24 €, et puis on a l'ISBN qu'on mettra peut-être sur le site pour pouvoir retrouver le bouquin. Ça se trouve facilement, on peut le commander pour toutes les librairies indépendantes, et j'ai su en le commandant que c'était redistribué par le groupe Hachette. Voilà, donc ça c'est fait. Et dans ce deuxième livre, tu nous racontes plus spécifiquement un voyage que tu as fait jusqu'en Arménie, en 2016, soit 40 ans après ton premier voyage en Iran. C'est ça ?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Et toujours sur une BMW.
Oui, mais pas la même. Une F800 GS.
Alors, Guy Bernard, qu'est-ce qui t'a ramené déjà à la moto ? Moi, je sais, mais les auditeurs ne savent pas. Comment tu as commencé à la moto et est-ce que tu étais d'une famille de motards ? Est-ce que tu étais encouragé là-dedans ou pas ?
Ah non, pas du tout. Alors, c'était le contraire, justement. Donc, je raconte ça dans mon premier livre, donc, qui s'appelle « Désir de liberté »,
où effectivement j'ai dû braver l'interdit paternel et même avec la menace de brûler la moto si jamais j'en ramenais une. Donc c'était, le message était très clair. Mais j'ai bravé l'interdit et j'ai fait mes expériences donc en Ducati 250, en Honda 125. Enfin, je raconte différents voyages, hein, il n'y a pas qu'un seul voyage. Donc ce voyage vers... j'avais cette fibre donc motarde en moi, j'avais cette fibre surtout de liberté, parce que la moto n'est qu'un véhicule. Hein, ça aurait pu être à pied, en mobylette, en vélo, à cheval. Donc le désir de liberté, c'est ce qui prime avant tout. Mais la moto est un véhicule de liberté. Et donc voilà, ça a animé beaucoup de voyages. Hein. Il y a eu des voyages après au Pérou, des voyages en Russie, voyages en... j'en oublie même certains. Donc voilà.
Aux USA, tu en parles, avec ta 125 en Europe centrale déjà. Oui, ça pour retrouver dans le premier bouquin un petit peu.
Attends, moi une petite parenthèse, c'est rigolo parce que en fait, autant les motos étaient moins fiables, on va dire à l'époque, autant les pays étaient plus faciles peut-être à visiter qu'aujourd'hui. Pour pas rappeler le contexte d'actualité, mais on s'aperçoit bien que là, quand tu nous parles d'Iran, que tu nous parles de Russie, on se dit ah ouais, ça c'était une autre époque. Aujourd'hui, on le ferait pas. Mais pour d'autres raisons, pas à cause des motos, hein, parce que les GS, toi, tu disais que tu avais une GS 800 là, sur les derniers voyages. Aujourd'hui, si on prend les toutes nouvelles GS, je pense que tu peux aller au bout du monde, quoi. Pourtant.
C'est clair.
Bizarre, quand même. Comme quoi, ce besoin de liberté, il est un peu étouffé aujourd'hui.
C'est vrai, après, il y a d'autres... comment dire ? Bien sûr, c'est une émission motarde, mais il y a d'autres façons de voyager. J'ai eu l'occasion de me rendre... Oui. Je voulais partir en Mongolie, en moto. Et là, effectivement, la Russie est enfermée maintenant. Ça serait complètement irresponsable de s'aventurer. Donc là, j'ai choisi l'avion pour me rendre après en 4x4 à travers la Mongolie. Donc, je ne perds pas espoir des grands espaces. Moi, ce qui m'anime, c'est les grands espaces.
La Mongolie, ça fait un moment, parce que tu en parles au début du bouquin, et tu dis, en fin de compte, on décide d'aller en Arménie parce qu'on n'a pas les visas pour passer la Russie. Donc déjà, en 2016, ça a commencé. Et dans le livre aussi, tu vas raconter un petit peu sur le retour. Vous êtes passé tout juste, vu qu'en Turquie, il y a eu un coup d'État juste la nuit où vous avez pris le bateau pour la Grèce.
Ah oui, c'était le dernier bateau, effectivement. Et c'est vrai que ce constat, ton collègue fait un très très bon paradoxe, en fait, parce qu'on a l'impression que tous les pays qu'on visite, finalement, on ne pourra pas y retourner d'aussitôt, parce qu'il y a toujours des événements politiques.
C'est ça, en fait, tu nous vends du rêve.
C'est certain, dans l'Iran, c'est ça. Bon, moi, j'y suis allé pour le travail, mais même pour le travail, tu n'iras plus en Iran. C'est pas la peine.
Pas tout de suite, on va dire.
Ou alors tu vas en prison en rentrant. Mais bon, c'est le problème. Mais ouais, donc on revient un petit peu sur le trajet, justement. Donc la première moto, quand tu pars, c'était une BMW, c'était une routière, quoi.
Ah ben, c'est améliorée. Moi, j'ai fait, tu parles mon premier grand trek en voyage.
Oui.
Oui, c'était une 750. R75
série 6, 5,
je crois, ou 5. Série 5, oui, c'est ça.
Et là, tu repars en F800 GS, mais Adventure en plus.
Oui,
avec
toutes les
options.
Oui, c'était.
Un plus gros réservoir. Non, mais c'est un réservoir, Albert, c'est un réservoir. Tu passes de 16 litres à 26 litres. Oui. Et quand tu dois partir, ça compte un peu. L'essence. C'est un moteur Rotax. Alors, la version de base, c'est des taux de compression élevés et tu ne mets pas n'importe quelle essence dedans. Et toi, tu repars là-bas. Et donc, entre l'Iran et maintenant, ok, les essences, ça s'est amélioré, mais pas tant que ça. Donc, tu as dû transformer un petit peu la moto, un petit peu aussi, comme tu l'avais fait la première fois ou pas ?
Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai une fiabilité absolue, j'ai même pas eu à rajouter d'huile sur les 12 000 km que j'ai fait.
Sponsorisé par BM. Oh putain. Non, 12 000... non, c'est bien, c'est bien.
Alors, 12 000 km, et puis après, je rappelle, les 12 000 km, ça s'est fait entre le 2 juin, si je me rappelle bien, oui, et le 21 juillet. À deux sur la moto. Et oui, ton amie, quand on s'est rencontrés, elle m'a dit qu'elle avait commencé la moto avec toi à l'âge de 60 ans.
Exact.
Donc vous aviez quel âge quand vous êtes parti comme ça faire de vos 12 000 km en un mois à peu près?
J'avais 60...
Il s'en fout, il fait ça tous les jours, mais bon.
Ça donne de l'espoir.
J'avais 64 ans, donc... Donc ça vous donne de l'espoir.
Non, non, mais ça va, on a passé l'âge là maintenant, on a passé cet âge-là. Donc ça va, c'est bon. Et là, on repart bientôt. Là, nous sommes à trois autour de la table qui prenons la route lundi. Donc, voilà. Donc,
pas donc, pour l'Iran. Hein.
Mais pas, pour, pas aussi loin, hein, pas aussi loin. Hein. On aime un peu notre confort là.
Oui, oui, donc à 64 ans, après à 65, j'avais fait le tour du Pérou en moto. Et après, à 60, on va pas se faire de gloriole, hein, 66 ans, je suis reparti dans les pays baltes en moto et Moscou, Saint-Pétersbourg, voilà.
C'est quand même bizarre, partout où tu voyages, il y a des problèmes.
Oui.
Non, tu serais pas un agent double par hasard, non?
Non.
Donc, c'était moi. Ce que j'aime bien, donc je précise un petit peu, ce livre il est rédigé sous la forme d'un journal parce que Guy Bernard il rédigeait tous les jours, il faisait un blog, donc c'est sous la forme d'un journal, ça se lit très bien. Ça se lit très bien. Et par rapport à l'autre livre aussi, ça fait un peu comme un guide aussi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est tu parles de l'évolution. Alors, ce qu'on peut noter aussi, c'est l'évolution aussi quand vous voyagez, parce qu'en Iran, en 75, vous étiez complètement isolé. Il n'y a pas de connexion. Même encore maintenant, en Iran, des fois, il n'y a pas de connexion. Parce que tu
fais un téléphone
iranien, oui, pour d'autres raisons. Tu vas là-bas, c'est comme dans un sous-marin. Tu remontes quand tu refais surface. Tu peux communiquer avec ta famille. Mais sinon, tu ne communiques pas du tout pendant ton voyage. Il peut t'arriver n'importe quoi. Et puis... Et là, vous êtes parti donc avec tout ce qui était la connectivité, et c'était le GPS aussi que vous aviez.
Alors, il faut imaginer entre, si on fait un parallèle, en 75, il faut imaginer les routes quasi inexistantes à part une fois qu'on quitte l'Europe. Après, pas de GPS, pas de carte bleue. Ça n'existait pas.
Pas de réservation en ligne.
Ah non, rien. Il fallait partir avec des travelers chèques, des dollars dans ses poches, camouflés à droite, à gauche. Enfin bref, c'était une aventure à l'état pur. Alors... Là, 40 ans après, alors le GPS, il faut savoir, à moins de 10 mètres le prix, le GPS s'est arrêté en Turquie, à la frontière géorgienne. Parce qu'après, c'est fini.
Pour quelle raison?
Parce que le programme du GPS ne le permettait pas.
Ah oui.
Ou alors, okay. Donc, ça veut dire qu'on a roulé en Géorgie, en Arménie, avec des cartes, à l'ancienne. D'autant plus palpitant. C'est d'autant plus palpitant parce qu'on est obligé sans arrêt de demander sa route, d'être au contact de la population. Et ça amène des péripéties, des quiproquos.
D'accord. Mais... On va passer un petit peu de musique et puis on va parler un peu de la suite. Et puis on va parler on va peut-être parler un petit peu des pays traversés et puis ce que vous avez rencontré.
À tout de suite.
Now I know who's number one. Not gonna waste another day.
Voilà, on continue l'aventure avec Guy Bernard, Yves.
Oui. Bon, Guy Bernard, tu nous entends ?
Oui, oui, très bien.
Ok, donc Guy Bernard, ce voyage jusqu'en Arménie, ça s'est fait donc par l'Europe centrale et puis après le Caucase. Et
oui.
Tu peux nous parler un petit peu du parcours ? Je sais que vous avez visité, donc vous êtes passé par l'Allemagne déjà au départ, c'est ça ?
L'Allemagne, l'Autriche, donc effectivement, la Roumanie, la Hongrie, donc la Bulgarie, la Turquie, la Géorgie, l'Arménie.
Tous les trucs
retour
en
par, oui, retour par la Géorgie et la traverser la Turquie, la Grèce.
La Grèce, et c'est là que tu rencontres notre ami Yanis.
Exact.
Comme c'est bizarre.
Il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard. Donc, et puis tout le long de ce voyage, tu racontes toutes les étapes, donc tout ce que vous avez visité, et on peut s'en servir quasiment, parce qu'il y a des fois, je ne sais même pas s'il n'y a pas les adresses. Enfin, il y a des noms déjà. Hein, donc,
mais oui, tu
as les impressions de les visiter. Et ce que j'ai noté un petit peu, c'était un peu une évolution. Alors, on en a parlé un petit peu en antenne. C'est je te trouve plus gourmand qu'avant.
Oui.
Guy Bernard, dans ce livre-là.
Ben, c'est peut-être la maturité aussi, la maturité de l'écriture. Parce que,
tu parles beaucoup de cuisine tout le long du journal. Tu nous racontes. Voilà ce que vous avez, et ça c'était bon, et il y avait ça, et ça, et ça, et donc tu nous parles de toute la cuisine de tous ces pays aussi, qui est très intéressante à connaître, c'est culturel aussi, en même temps.
Oui, oui, un voyage ça se goûte aussi, hein. il y a des saveurs, il y a des libertés aussi de respirer, il y a des... Donc voilà, c'est aussi le titre du livre Papier d'Arménie, hein. Il y a des saveurs, il y a des fragrances... mais il n'y a pas que de la cuisine, hein, c'est simplement des impressions, c'est surtout des anecdotes en fait, hein, des anecdotes d'incompréhension par moments sur des cartes où on n'y comprend rien et on choisit un peu au hasard. Enfin, il y a des quiproquos.
Oui,
je pensais que c'était les goûts changent avec l'âge, etc. Et du coup, il y a des choses qui évoluent et on voit les choses différemment.
Ah, il y a ça aussi.
On les goûte différemment.
Il y a ça aussi. Bah alors après, ça devient trop sérieux parce qu'on va parler de... Et il en parle beaucoup, Guy Bernard, dans son voyage. Il y a tous les sites traversés. Et il faut savoir que l'Arménie, c'est le premier pays chrétien, il me semble, hein, c'est ça ?
Oui, donc, c'est ça. Première nation chrétienne.
Et donc, tu as visité les endroits qui sont sacrés, qui sont dans lesquels, soi-disant, le roi a été converti. Il y a une histoire de ça.
Oui, mais c'est un pays vraiment magique. Hein. Magique dans le sens où tous ces témoignages culturels sont prégnants. Hein. On les voit sur des pitons rocheux, sur des montagnes. Il se passe pas 2 heures de route ou 1 heure de route sans qu'on voit des églises arméniennes, etc. Et d'ailleurs, à ce point, l'Azerbaïdjan, actuellement, est en train de détruire ce patrimoine architectural religieux arménien.
Ah oui, parce que...
En détruisant des cathédrales, etc. Oui. Et c'est en ce moment même.
Oui, entre-temps, il y a une guerre, et puis l'Azerbaïdjan a conquis une partie de l'Arménie, et ça s'est fait assez récemment, et que... je ne dis pas sous l'égide, mais enfin bon, voilà, ça a été plus ou moins géré par la Russie, quoi.
Bah, l'Arménie est un pays martyr, ce qui est entre la Turquie, son génocide qui n'est toujours pas reconnu par les Turcs. Donc les Arméniens sont très attachants, et surtout vis-à-vis des Français, dans le sens où Charles Aznavour est vraiment l'ambassadeur.
Je l'attendais, celui-là. oui.
C'est un sésame, par exemple.
Pardon ?
Tu en parles comme d'un sésame à un moment.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Et le nombre de fois où on a eu des coups de klaxon, des signes de main, quand ils ont reconnu qu'on était français. Et combien de fois on a eu cette question, mais pourquoi vous êtes venu ici ? pourquoi. C'était une supplique quelque part, une admiration en même temps. Donc on a été soigné au petit poivron, comme je dis.
D'accord. Non, c'est donc ce qui est marrant, il y a toutes les rencontres et on parlait du GPS, de la communication, mais apparemment ça marche pas toujours si bien que ça, parce que dans tout ce que vous aviez réservé, bien souvent il y a des fois où vous trouviez pas, et c'est vraiment le hasard qui vous a fait découvrir vraiment les endroits où aller, quoi.
Ben oui, oui. Ben, de toute façon, on a un principe, on a toujours une petite tente avec nous, et comme ça, on n'est quand même pas pris de court si jamais on ne trouve pas.
Il y a des trucs, il y a des choses assez bien aussi. C'est vraiment l'accueil et l'hospitalité qui n'existent plus chez nous non plus.
Ben, chez nous, n'exagérons pas, parce qu'il suffit de regarder Ninu ni culotté, là, cette émission que l'on voit de temps en temps à la télé. Elle est extraordinaire. On s'aperçoit aussi que souvent, ce sont les cabossés de la vie qui sont les plus hospitaliers.
Très souvent.
Et les plus nantis qui sont les plus égoïstes.
Ou les gens qui ont voyagé aussi, qui ont l'esprit plus ouvert, un peu.
Voilà.
Ce qu'on m'a dit récemment, avant-hier. Non, même. Oui, avant-hier sur l'île. Voilà, donc tu avais tout ça. Moi, Tu es parti avec ton ami, enfin ta compagne,
ouais, ma compagne Marie. Oui, oui.
Et, oui. Et Marie, elle a commencé la moto à 60 ans. Et tu en parles à un moment, tu en parles à peu près. Et tu nous confies un petit peu, tu parles un petit peu de ses impressions, mais pas trop. Et je m'étais dit, bah, tiens, pourquoi le livre il n'a pas été écrit à 80 presque, avec Marie aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et je voulais savoir comment elle avait ressenti, elle, ce voyage en moto, parce que tu commences la moto à un certain âge, mais se payer 12 000 km comme ça, c'est pas le confort, quoi.
Alors moi, la question, c'était, elle est passagère ou elle est avec sa moto ?
Passagère.
Non, elle est passagère. Passagère.
Oui.
Donc, ensemble, nous avons déjà fait 40 000 km en moto. Donc, comme elle me dit, elle me fait confiance. Donc, c'est très bien.
C'est important.
Donc, c'est important. Donc, pour elle, à part quelques aventures que je décris dans le livre, très hasardeuses, où là, elle était en révolte, mais comme je dis, Cupidon décoche des flèches. Donc, dans la mesure où c'est Cupidon, on peut se réconcilier.
Ah, j'avais pas compris. Donc, des aventures avec d'autres. C'est ce que tu voulais dire.
Non.
Ah, c'était
non,
pas
non,
ça.
Non.
J'ai cru comprendre, parce que moi, tu parles de Cupidon, de bouffe,
de flèches.
Non, mais je veux dire que
de flèches.
Quand, quand on se casse la gueule en montagne dans un sentier rocailleux, là, je peux dire qu'elle était pas contente que j'ai osé emprunter ce sentier.
Donc c'est là, ça écorche la confiance. Ça écorche la confiance. Voilà. On peut le dire. Ouais.
Voilà. Non, mais sinon, au contraire, elle a toujours énormément apprécié. Moi, j'en étais le premier surpris. De temps en temps, au freinage, je sentais son casque buté sur le mien. En fait, je m'apercevais qu'elle dormait.
Oui, c'est ça.
Je pensais. Pareil, dans certains virages, par moments, je sentais
elle est tombée.
La moto.
Oui.
La moto, elle nous voyait un peu. Je me dis, oh là là, elle me suit pas.
Non, ah oui.
Et j'ai toujours été étonné que l'organisme ait ce self-control pour ne pas tomber alors qu'on dort derrière.
Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Tout à fait.
Et sinon, pour aller plus en avant, elle a toujours dit, elle sentait, elle a été émerveillée d'avoir une vue à 180 degrés et franchement, elle a toujours été extrêmement heureuse et même dans les galères, parce qu'on a eu des pluies par moments, on était trempés, je l'écris dans le livre.
Oui, vous partez toute la partie européenne sous la pluie, quoi.
Ah oui, c'est dantesque. Même à certains moments. Mais alors le bonheur est là aussi quand on a la chance de trouver une douche chaude et voilà. Donc non, ça fait partie de la moto, c'est une osmose aussi, hein.
Donc faut être un peu masochiste, quoi, pour la moto.
Oui, mais
ça fait du bien quand ça s'arrête, quoi.
Voilà.
Bon, moi, ce que voilà. j'ai envie, quels sont tes projets là bientôt? J'ai su que, alors, tu nous as dit que tu avais arrêté la moto et la dernière fois que j'étais au téléphone, tu m'as dit que ça te manquait et tu l'as racheté une moto.
Oui. Mais ça sera comment dire, les douleurs de genoux, etc. Ça sera une petite cylindrée pour toujours éprouver ce sentiment de liberté, mais ne plus avoir, un poids conséquent à pousser, parce que quand on est deux plus les bagages. Moi, je me souviens de mon premier voyage, vraiment grand voyage, c'était en 125 Honda, une mono, là, un mono 125. On était à deux dessus avec les bagages et on a fait tout le tour de la Yougoslavie à l'époque, toujours en partant de France. Et on a fait un périple merveilleux à travers les cols autrichiens et tout. Donc, j'imagine une petite cylindrée, je me ferais plaisir avec ça.
Ah bah c'est très bien. Et tu as un troisième livre qui est en cours, je crois, aussi.
Alors, je vais m'y mettre au mois d'août, on va dire. Je vais commencer l'écriture, justement, sur une quête...
spirituelle.
On va dire une quête chevaleresque vers la Mongolie. Parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer un chaman qui m'a fait des révélations qui se sont avérées à la fois exactes, qui ont excité ma curiosité. Et voilà.
Alors donc, là, on rentre un petit peu dans le...
Bon bah écoute, on va attendre le troisième tome. En attendant ce bouquin, il est vraiment bien fait, et en journal de bord, mais aussi en éducation, qui peuvent donner aussi des indications. S'il y a des personnes qui veulent faire la même chose, peut-être pas aller jusqu'en Arménie, mais longer la mer Noire, revenir. Bon, après la Turquie, il y a beaucoup de gens ici qui connaissent aussi. Mais
la Grèce
et la Turquie, ça peut toujours être intéressant. Et puis, notre ami Yanis, si tu repasses par la Grèce, tu le recroiseras peut-être à nouveau. Hein. Et cette fois-ci, c'est lui qui a tes chaussures. Hein. Je te le signale, c'est à lui que je les ai données.
Hein. Oui. J'en suis très content.
Bon, écoute, on te remercie pour cette interview. Et puis, on espère te revoir bientôt. Et puis peut-être venir nous visiter un petit peu ici.
Oui, volontiers. Là, c'est vrai que j'ai déménagé, etc. Donc j'ai eu beaucoup de, on va dire, de travail. Hein, beaucoup de. Ouais. Bon, le livre papier d'Arménie est disponible dans toutes les librairies ou sur les plateformes. Hein, on peut le commander sur Internet.
Lise-le directement, voilà.
Ou Amazon directement.
Ou Amazon aussi. Moi, mais j'évite un peu les Amazon, les machins.
Oui,
enfin, faire travailler les petites librairies quand même.
Oui, bien sûr. Surtout, il suffit d'aller chez son libraire et de le demander. Le libraire va le commander. Hein.
Exactement.
Hein, donc,
je te remercie. Et puis donc, à bientôt. Espérant en moto.
Bientôt.
Allez.
Et puis, que ça donne envie à tous les motards de s'aventurer
un peu plus loin.
Un bon dimanche, Guy.
Un bon dimanche.
Merci.
Salut.
À bientôt.
Bonjour à vous tous. Au revoir.
Mais mets ton casque, Patricien, voilà. Oui, parce que je vais te poser une question. On termine cette émission avec la balade d'Achnor.
Ah oui, c'est page 30 du calendrier.
Bah oui,
vous avez un très bel encart où vous, l'ami Gilbert de Kikaku Tetupal,
ouais, fait vous plus propose... court. En fait,
plus court.
En fait, on veut couper avec le moment culture qu'on vous a fait partager pendant plus d'une heure, qui était fantastique, voilà. Avec des gens fantastiques. Et là, on est sur un truc un peu plus déconnant et à la fois non, puisque effectivement, on propose...
Et
vous le voyez, hein, tu vas le lire dans le, tu vas le lire, en tout cas tu vas nous faire un petit résumé sur la page 30 de notre calendrier où effectivement Kikinkou, hein, parce que c'est l'ami Chalbert,
synthétise
Kikinkou, propose effectivement à ce que vous veniez jusque dans le nord découvrir notre jolie région. Voilà. Vas-y.
Oui, déjà, si les personnes ont écouté l'émission depuis le début, Daniel nous a fait la promo.
Tout à fait.
C'est super. Il y a plein d'endroits à visiter. Il y a de la bonne cuisine. Il y a de la bonne bière.
Plein de choses à faire. Voilà. Effectivement, plein de choses à voir. Moi, j'en ai répertorié quelques-unes. Et c'est vrai, ce qu'on propose, c'est de dire ben, si vous avez envie de venir visiter le Nord, c'est vrai que c'est possible. Et Kikinkou est là. Et alors. C'est l'ami Chmois, bien sûr, Albert, qui propose d'accompagner, mais pas que. Il y a d'autres personnes dans notre association qui seront sans doute sympas et qui vont accompagner sur des balades pour aller boire un coup. Hein, tu vois, parce qu'on
alors
a
pas quelques... au mois de mai, Albert, c'est complet. Hein.
Oui, c'est vrai. Le mois de mai, c'est foutu.
Tous les week-ends sont pris. Hein, parce qu'il y a beaucoup de ponts au mois de mai. Hein.
C'est vrai. Et on est tout le temps parti.
Sur le pont.
C'est le problème.
Ouais, alors là, vous avancez fort, hein, parce que vous prétendez connaître des perles qui échappent aux guides touristiques et autres recherches sur Internet.
Oui.
Bien sûr.
On en connaît.
C'est quoi les perles en question?
Là, on peut pas le dire.
Si on le dit, c'est plus une perle.
C'est un peu comme la fricandelle.
Vous avez tous vu le film, on en parle,
c'est plus une perle.
C'est un bon goût, mais on sait pas ce qu'il y a dedans et on le dit pas. Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'on peut faire des superbes balades et on a quand même quelques petits troquets de dessous les fagots qui sont vraiment sympas, où on peut effectivement apprécier les estaminets de nos Flandres. On peut effectivement rencontrer d'autres motards, assister parfois à des concerts, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Le Nord, c'est une région qui bouge. Hein, c'est une région, et puis alors avec Lille, qui est quand même une ville très estudiantine et du coup avec plein de choses à voir et à faire. Enfin voilà, venez quoi. Et ça peut être culturel aussi, ça peut être aussi sportif. Il y a vraiment plein de choses.
Il y a plein de musées. Et puis Albert. Il y a Albert.
Voilà.
Ah oui.
Venez nombreuses. C'est ça que tu voulais dire.
Moi, j'ai rien voulu dire. Toujours, voilà, on termine. C'est bon, Albert, pour cette promo.
Notre petite
balade d'Achnor.
Oui, hein, ouais, tout à fait.
Bon, très bien. Eh ben moi, j'ai noté.
Mais
hein,
ce que je propose, moi, c'est qu'effectivement.
Et tu fais ça quand ?
Sur une autre émission. qu'on annonce. Moi, je suis prêt à le faire avec l'ami, qui est un support incontournable, de proposer un petit menu. Voilà. En vous disant, allez, on vous propose 5 jours ou 6 jours.
Oh non, 6 jours, c'est trop, Albert.
Si.
5 jours, non, 6
jours.
Et
on
vous
propose,
le sixième est gratuit.
Des activités, des balades, etc. Et on vous fait un petit menu comme ça pour que vous puissiez effectivement avoir une idée et vous projeter.
Oui,
et
puis avec une idée de tarif aussi, peut-être.
Bien sûr.
Bon,
bien sûr.
C'est ça, mais si on va page 30 dans le calendrier.
Tout à fait.
Et voilà.
Avec une belle illustration.
C'est les balades d'Achnor. Voilà, très bien. Bah, toujours, j'ai noté hein, qu'on ne va pas s'emmerder au mois de mai hein, au niveau de la moto dans le Nord. Hein, parce que le 14 et 17 mai, c'est occasion exceptionnelle de rencontre autour de machines d'exception. Patricia ?
Tout à fait.
Quelle marque ?
Gnomeron.
Je ne savais pas que tu t'appelais Patricia.
Ça m'arrive.
et après le 16 et 17 mai, il y a Motartois. Bah aussi, oui. Et puis s'il n'y avait que ça, il y a encore plein de trucs. Je suis allé voir sur le calendrier, le 22 et 24 mai, il y a la balade des vieux clous.
Ah, j'ai une info.
Ah ben voilà.
Au 1er mai, il va y avoir
Non, c'est pas vrai.
À Merville, une balade solidaire. Et Bertrand Westerling, qui est à l'origine aussi avec une association qui sera très sympa de découvrir, parce que ce sont des personnes qui s'engagent à fond pour essayer de ramener comment de l'argent, voilà. Hein, pour des, une bonne cause, en l'occurrence, voilà. Une petite fille qui est malade.
Et aussi pour terminer, non, parce qu'il y en a encore plein, mais on n'aura pas le temps de le lire. Il y a la ronde du UMC, les pneus lisses aussi. Ah oui. Le 23 mai.
Hein, on va rester dans.
Et puis il y en a encore plusieurs.
Dans hein, même
ça. Voilà, enfin bref, c'est le programme du mois de mai ici dans la région du Nord. Hein. Il y a de quoi faire. Et puis une petite balade d'H Nord, histoire de deux jours, là, qu'on vous fasse découvrir nos perles.
Mais bien sûr.
Voilà, donc, Albert.
Et
voilà.
Pour l'association des pneus lisses, en fait, ils proposent un concert voilà, avec. Délit 8.
Très bien, voilà. Alors merci Patricia, au mois prochain. Voilà, au mois de juin,
bientôt.
Voilà. Merci Albert hein, pour cette balade d'H Nord.
Et on revient avec un menu.
Et merci Yves hein, pour le bouquin. On rappelle le bouquin vite fait.
Ah oui, papier d'Arménie.
Papier d'Arménie, voilà. Et puis alors, on remercie qui ?
Patricia.
Mais non, pas Patricia.
Oh, mais... notre grand
complètement la ramasse. Hein. Il notre est complètement la ramasse. Notre technicien.
Depuis qu'il s'appelle Patricia.
Mais non, écoute, franchement. Allez, au revoir, passez un bon dimanche surtout. Et puis, rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit. Hein. On change pas à 11h sur Campus Lille, 106,6.
Et roulez.
Allez, bon week-end. Bonne fin de week-end.